C'est toujours le même rituel. Quelques heures avant l'émission Quoi de neuf Doc, le plus souvent aux alentours de 11h du matin, lorsque le soleil est en bonne place afin d'emplir mon esprit, je prends mon stylo et une page blanche pour m'atteler à l'écriture de ma chronique. Ainsi, je regarde le sujet du jour, où j'en invente un, puis je griffonne frénétiquement quelques minutes avant, afin de remplir cette page blanche. Aujourd'hui, il s'agissait de traiter de la vulgarisation scientifique et comme souvent, pour trouver de l'inspiration, je ferme les yeux 30 secondes, j'inspire profondément et l'idée arrive. Cependant, si depuis 3 ans, lorsque je ferme les yeux, c'est le plan de ma thèse qui surgit à mon esprit, je dois t'avouer avec beaucoup d'émotion que depuis quelques semaines, lorsque je m'adonne à cet exercice, c'est à ma fille qui va naître dans quelques jours que je pense. Vous imaginez bien que... il n'en a pas été autrement lorsque j'ai fermé les yeux aujourd'hui aux alentours de 11h. Dès lors, la scène qui a empli mon esprit m'a projeté quelques années en avant lorsque ma fille sera en âge de parler et qu'un soir, au retour de l'école, elle me dira « Papa, la maîtresse nous a demandé quel métier faisaient notre maman et notre papa. Alors moi j'ai dit que maman était maîtresse, comme elle, et que toi tu étais un maître pour les grands, à l'université. Mais toi en fait, qu'est-ce que tu leur apprends aux grands ?» Alors dans cette situation, face à ma fille de 4 ou 5 ans, que ferais-je? Que dirais-je? Il faudra bien que je trouve les mots. Et qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais m'asseoir sur le canapé, en face d'elle, et lui dire « Bon, concentre-toi ma puce, je vais t'expliquer ce que fait papa à l'université en 3 minutes. T'es prête ?» Non, honnêtement, cela vous paraît aberrant comme situation, n'est-ce pas? Non, on attendra de moi que je prenne le temps d'expliquer à ce petit être ce que je fais dans la vie, car c'est important pour elle de comprendre, car elle aime son papa. De plus, on me dira que si je suis pas capable de prendre le temps de lui expliquer, c'est que je suis un père indigne et que je ne l'aime pas. Vous aurez compris que lorsqu'il s'agit des enfants, l'enjeu n'est pas le même. Pas besoin de séduire, pas besoin de persuader, pas besoin de faire vite, ni besoin de faire mieux que les autres pour gagner le concours. Non, avec ma fille, je prendrai le temps car elle me fera confiance. Elle m'écoutera avec bienveillance, sera déjà à l'écoute, non pas parce que je parle bien, ou parce que je présente bien, mais juste parce qu'elle a l'âme d'un enfant et que la seule chose qui lui importe, c'est de savoir, tout comme moi d'ailleurs, qui suis chercheur, de savoir, tout simplement. Vous l'aurez compris, ce billet introductif est un plaidoyer. Un plaidoyer pour qu'on le retrouve nos âmes de chercheurs, nos âmes assoiffées de connaissances, de partage bienveillant, de compréhension mutuelle, de débats passionnés. Je serai papa dans quelques jours, mais je serai aussi docteur. Or, si je n'aurais jamais à persuader ma fille pour qu'elle me donne le prix du meilleur papa, je ne voudrais pas avoir à persuader les citoyens pour qu'ils me donnent le prix du bon chercheur, qui sait bien faire passer le message. Pour moi, la vulgarisation scientifique, ce n'est pas séduire pour attirer l'attention. Non, le partage des savoirs, c'est avant tout la fabrication d'un espace d'échange partagé. Pour moi, être scientifique, ce n'est pas faire un show de 3 minutes face à un jury avec un micro à la main, c'est s'asseoir sur le canapé du monde avec la société civile et prendre le temps d'expliquer les choses avec beaucoup d'amour, comme on le ferait avec nos enfants.
Bonsoir à toutes et à tous, Barbara sur Radio Campus pour une nouvelle édition de Quoi de neuf Doc, une édition spéciale avec des invités spéciaux puisqu'elle a pour thème la vulgarisation scientifique et que nous accueillons ce soir en studio pour débattre avec nous plusieurs candidats du concours Ma thèse en 180 secondes, candidats que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant toute chose et pour lancer les débats, vous venez d'entendre un billet d'humeur assez critique mais finalement assez doux de Nicolas Duraca, doctorant en communication et habituellement chroniqueur dans cette émission. S'il n'est pas forcément favorable au concours Ma thèse en 180 secondes, comme vous avez pu le deviner, tous les chercheurs et tous les docteurs ne partagent pas son avis, et c'est là tout l'intérêt du débat sur la vulgarisation scientifique. À quoi sert-elle? Est-elle utile? Mais la question se pose aussi sur la manière de faire. Comment faut-il vulgariser la recherche? Afin d'approfondir la question, nous vous avons concocté un petit programme sympathique pour l'heure à venir. Vont s'enchaîner chroniques, interviews et débats, entrecoupés de quelques morceaux de musique pour calmer les esprits et vous laisser respirer un petit peu tout de même. Alors tout d'abord, Alice Julier, doctorante en droit privé au Centre Michel de l'Hôpital, s'interrogera sur la diffusion de la science juridique dans sa chronique « Société en marche ». Ensuite, Arthur Chassagnol me rejoindra pour réaliser un premier temps d'interview de plusieurs candidats de la finale régionale auvergnate de ma thèse en 180 secondes. En effet, nous accueillons ce soir 5 des 12 candidats de la finale régionale. Lucie Poulet, qui est doctorante à l'Institut Pascal en génie des procédés. Sylvain Colli, qui est doctorant en mathématiques appliquées au labo de maths et à l'INRA sur la propagation des maladies contagieuses. Ibtissem Hamouda, doctorante au CGRCGM en sciences de gestion. Nader Gelassi, qui est doctorant au Limos, donc en informatique, et qui a déjà participé l'an dernier au concours Mathèse en 180 secondes, et Barbara Liborio, qui est doctorante à l'ICCF sur le captage et le stockage des gaz acides. Vaste programme, on en saura plus tout à l'heure. Je vous rappelle juste, à titre informatif, et ça évitera peut-être que l'on revienne dessus tout à l'heure, et ça vous laisse le temps de noter l'information, la finale régionale aura lieu le 27 avril 2016 à 17h30 à l'école universitaire de management située 11 avenue Charles de Gaulle, et on vous invite à venir nombreux, d'autant plus à la fin de l'émission, lorsque vous en saurez plus. Juste après ce premier temps d'interview, nous retrouverons Clément Matona, doctorant au CERDI, pour sa chronique « Avez-voulu ?», consacrée ce soir au livre d'Edgar Morin, « Introduction à la pensée complexe ». Que de complexité ce soir, décidément. Nous reprendrons ensuite la discussion avec nos candidats régionaux à Mathèse en 180 secondes pour évoquer avec eux la manière de se préparer à un tel exercice. Ils pourront à cette occasion profiter des conseils de Noémie Mermet, doctorante en neurosciences, chroniqueuse de cette émission, mais aussi gagnante de la finale internationale de Mathèse en 180 secondes 2014. Noémie qui nous présentera juste après sa chronique « Patience », consacrée, du coup bien évidemment, à la vulgarisation scientifique. Pour clôturer l'émission, et une fois que de nombreuses informations auront déjà été données par tous les intervenants, nous vous proposerons un temps de débat autour de la table afin de savoir si la vulgarisation est oui ou non une bonne chose, et si oui, comment elle devrait être réalisée. Tout cela devrait donc vous permettre de vous faire votre propre opinion sur la question, et vous souhaitez la partager, et si vous souhaitez venir débattre avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre au Delirium juste après l'émission pour le Docto Vert, nous serons ravis de discuter avec vous. Pour l'heure, car c'est pas encore l'heure de l'apéro, même s'il fait déjà très chaud en studio, retrouvons Alice et sa chronique Société en Marche.
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème.
Bonsoir Alice.
Bonsoir Barbara et bonsoir à tous. Alors cette émission spéciale vulgarisation scientifique démarre avec un sacré programme. Je dois dire que c'est assez alléchant et bon, pour une fois je pourrais pas rester mais je suis un petit peu déçue. Alors, chers candidats au concours Mathèse en 180 secondes, j'imagine qu'après le billet d'humeur très attendrissant de Nicolas, mais un petit peu critique sur l'exercice, vous vous sentez déjà parfaitement dans le bain de la vulgarisation et surtout en terrain conquis. À mon tour maintenant de me glisser dans le thème. Et pour faire original, alors vous le savez pas puisque vous n'êtes pas là d'habitude, mais je suis juriste et pour faire original, je vais vous parler de droit. Ou plus précisément, de diffusion de la science juridique. Oui, parce que le juriste ne vulgarise pas, il démocratise. Dans le milieu du droit, tant des praticiens que des enseignants, il existe une forte admiration et même une affection pour l'art oratoire et la théâtralité. C'est peut-être l'essence du droit, ou plutôt de la loi avec un grand L, qui explique cela. En effet, le droit, c'est la manifestation première du fonctionnement démocratique. Il est supposé émaner directement de la volonté du peuple. Si bien que les savants du droit, quand ils disent le droit ou quand ils l'expliquent, se sentent quelque part la mission de parler au nom du peuple. Et évidemment, lorsqu'une personne entend 6 ou 7 milliards de voix dans sa tête pour s'exprimer, il y a de quoi être théâtral. Le discours juridique revêt plusieurs rôles, et le plus connu d'entre tous est probablement celui de convaincre. Le rôle même de l'avocat et de la plaidoirie en est l'exemple le plus flagrant. Le procès même est organisé de façon à déséculariser les tribunaux. La tenue des avocats, des magistrats, le protocole respecté à la lettre en font un lieu d'artifice qui, même s'il creuse parfois un fossé entre les profanes et les connaissants, demeure une tradition que les juridictions, mais pas non plus la population, ne sont pas prêtes à abandonner. La bouche de la loi que sont les juridictions se satisfait de son piédestal et du spectacle qu'elle renvoie aux individus. Mais cette théâtralité ne s'arrête pas aux portes des juridictions. Et quand il s'agit de convaincre, les juristes savent sortir le grand jeu et jouer de toutes les techniques verbales et déclamatoires pour arriver à leur fin. Vous connaissez sans doute de très célèbres discours juridiques. L'un de ceux qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Robert Badinter, prononcé devant l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981 pour l'abolition de la peine de mort. On voit par exemple, ou on entend plutôt, qu'il prend son public à partie, dès le début de son discours en annonçant « Cette communion d'esprit, cette communauté de pensée à travers les clivages politiques montre bien que le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. » Puis il fait appel aux émotions et à la culpabilisation du public. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays et presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. Le discours est très long et je ne vais pas vous le détailler. Mais au-delà de la réforme juridique majeure dont il s'agissait, ici, la maîtrise de l'art oratoire était plus importante que la simple diffusion scientifique. Finalement, la réforme était une mesure facilement intelligible. Au-delà de l'art de convaincre, le vrai rôle de diffusion, c'est sans doute celui de l'universitaire, de l'enseignant, chargé de transmettre la science millénaire qu'est le droit aux générations futures. Et là, s'il est clair que les juristes gardent leur singularité, les matières se rapprochent sans doute. Je ne sais pas si les autres disciplines ont l'équivalent de notre bordel de droit. Alors bordel de droit, c'est une page Facebook qui recense toutes les perles des enseignants. Et sur cette page, on y constate que les étudiants apprécient et relèvent particulièrement les excentricités de leurs professeurs. Et du coup, il y a une espèce de concours entre les profs pour figurer sur bordel de droit. C'est sans doute pour eux, pour les étudiants, un atout pour absorber la science qui leur est transmise. Comme beaucoup d'auteurs l'ont écrit, la rhétorique, dans son sens le plus noble, n'est surtout pas à sous-estimer dans la diffusion scientifique. Mais c'est sans doute vrai dans toutes les matières. Nous l'avons d'ailleurs entendu récemment lorsqu'un professeur clermontois de lettres, a fait tout un discours en alexandrin qui a beaucoup marqué les esprits. En réalité, au-delà de l'aspect théâtral comme dans toute discipline, la diffusion de la science juridique doit reprendre des codes, sans doute universels, afin de mettre le destinataire en mesure d'obtenir une maîtrise satisfaisante du sujet. Et ça, c'est sans doute vrai dans toutes les matières. Avant la connaissance brute, l'important, c'est de transmettre les clés de réception de la connaissance. Et c'est sans doute grâce à la méthodologie propre à chaque discipline, Il s'agit donc de poser des jalons, maîtriser le vocabulaire, inculquer un raisonnement. Et surtout, c'est vrai dans le domaine du droit, car par nature, il est très évolutif. D'ailleurs, ça me fait penser à nos étudiants en droit, j'ai entendu qu'ils nous écoutaient, qui vont se prendre une réforme du Code civil en octobre de plein fouet et qui auront tout ça à gérer. Et ça, ce sera grâce à la méthode. Pour en revenir à MT 180, il est à la charge du connaissant, face à son public profane, de s'adapter au format de diffusion qui lui est proposé. Il est vrai que le mode de diffusion est important et qu'on peut débattre sur l'aspect inadapté ou adapté des fameuses 180 secondes. Toujours est-il qu'à moins de se retrouver dans une caverne seule avec son élève, il y a toujours des contraintes. Et c'est sans doute ça aussi la qualité de l'enseignant, du conférencier et du candidat à ma thèse en 180 secondes. Sur ces mots qui relèvent peut-être davantage du billet d'humeur que de la diffusion de la science, je vous laisse, sans aucun lien, avec Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. And rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena's long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose.
Vous venez d'entendre le titre « Me and Bobby McGee » de Janis Joplin. Vous êtes sur Radio Campus au 93.3 pour l'émission Quoi de neuf doc, consacrée ce soir à la vulgarisation scientifique. Je vous propose d'ailleurs dès maintenant d'accueillir nos invités candidats à ma thèse en 180 secondes. 3, 2, 1, go ! Bonsoir à tous les cinq, bonsoir à Arthur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à répondre à nos questions. Peut-être que je vais laisser Arthur commencer cette interview.
Merci Barbara, bonjour à tous et à tous, à tous nos auditeurs, nos auditrices et à nos invités. Donc nombreux, on est beaucoup sur le plateau, j'espère qu'on ne va pas avoir trop de problèmes de micro. Vous nous excuserez si c'est le cas. Donc on a 5 candidats à ma thèse en 180 secondes. Je vais juste reciter les prénoms, Lucie, Sylvain, Ibtissem, Nader et Barbara. Je vais rapidement leur donner la parole sur des petites questions. On va essayer de faire assez court, que ce soit assez dynamique pour ne pas prendre trop de temps puisqu'on est beaucoup. Donc on va commencer alors, de manière totalement arbitraire. Hein, je vais prendre dans l'ordre dans le studio. Donc on va commencer par Ibtissem qui va tu te présentes rapidement, nous dire en une phrase un peu ce que tu fais en thèse et pourquoi le concours Ma thèse en 180 secondes t'intéresse, pourquoi tu as décidé de t'inscrire à ce concours.
Merci Arthur, bonsoir à tous les auditeurs. Donc je suis Ibtissem Mahmouda, doctorante en première année au CRCGM. Donc je suis en sciences de gestion et je travaille sur les firmes pivots de l'aéronautique en Auvergne et sur les processus de clusterisation et délocalisation. Donc en gros, ma participation et ma principale motivation, c'est se prendre au sérieux sans trop se prendre au sérieux. Je crois que ça résume assez bien l'idée qui me motive, à savoir essayer de vulgariser au maximum ma thèse pour, dans le cadre de ce concours et puis se prendre au jeu, tout simplement.
Très bien, merci beaucoup Ibtissem.
Merci.
Alors, je vais donner la parole à Sylvain, donc qui va pareil essayer de nous synthétiser un petit peu les réponses à cette petite question.
Oui, alors bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sylvain Colli, je suis en troisième année de thèse et je suis basé à la fois au laboratoire de mathématiques et à l'INRA de T. Et en fait, je fais une thèse en mathématiques appliquées. En fait, je travaille sur comment construire des cartes de risque sur des maladies contagieuses pour lesquelles on a très très peu de cas en France, en fait. Et ce qui m'intéresse le plus dans le fait de participer à ma thèse en 180 secondes, c'est essentiellement que je pense que c'est un bon exercice. C'est quelque chose qui est un petit peu discutable, qui a quelques inconvénients, mais je pense que ça peut être un très bon exercice pour bien prendre l'habitude de parler de façon claire de son sujet.
Très bien, merci beaucoup Sylvain. Donc je vous rappelle, là, on ne rentre pas dans le détail des sujets de thèse, mais le but c'est justement aussi de vous inciter à venir en savoir plus le jour de la finale sur ces sujets qui sont énoncés là, pas dans une chronique 8 minutes avec, comme vous avez l'habitude. Eh bien, je vais donner la parole à Lucie Poulet, donc, que vous avez déjà entendu dans cette émission plusieurs fois, qui nous a déjà fait des chroniques. À toi, Lucie.
Bonsoir à tous. Donc, mon nom, c'est Lucie Poulet. Je suis doctorante en génie des procédés à l'Institut Pascal. Et ce que je fais, le but du projet sur lequel je travaille, c'est de faire pousser des légumes dans l'espace. Et de manière un peu plus détaillée, je fais de la modélisation de croissance de plantes. Quand la gravité est inférieure à la gravité terrestre. Et les raisons pour lesquelles je voulais participer à ma thèse en 180 secondes.
Nouveau défi, 80 secondes pour Lucie.
Voilà. donc c'était que je voulais, dès que j'ai l'opportunité de faire un petit peu de vulgarisation, de parler de spatial, je la saisis. Donc ça c'était la première raison. La deuxième, c'est que je pense que c'est un exercice intéressant pour la suite. Pour parler simplement de ce que je fais en thèse. Voilà.
Parfait, merci Lucie. Eh ben, je vais donner la parole à Barbara qui va aussi nous expliquer les raisons de sa participation.
Bonjour, je suis Barbara, je suis portugaise et j'ai fait ma thèse à ICCF, à Clermont-Ferrand. Je travaille sur le captage et stockage de gaz acide. La raison principale que j'ai participé à ce concours, c'est de visiter Maroc.
Parce que je rappelle à tous nos auditeurs que la finale internationale du concours aura lieu à Rabat, au Maroc, à l'automne.
Non, je rigole. En fait, je travaille en thermodynamique. C'est une matière très difficile pour les gens. Et je pense que c'est un bon exercice pour essayer d'expliquer qu'est-ce que je fais en thermodynamique. Voilà.
Eh bien, merci Barbara. Donc, on va finir avec Nader. Nader qui, comme Barbara l'a déjà dit, Barbara, notre animatrice, a déjà participé au concours. Donc, peut-être qu'il va nous dire un mot aussi sur ce cas particulier.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Nader Gelassi. Je suis doctorant en quatrième année au LIMOS, donc en informatique. Et je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, je travaille sur tout ce qui est système de recommandation dans les réseaux sociaux, donc au LIMOS. Et moi, je suis un très grand fan de ce concours. Donc, je m'inscris presque chaque année, donc c'est la seule occasion en fait d'avoir du recul sur ces travaux et de présenter avec humour en un temps très court donc ces travaux et d'avoir en fait l'avis de gens qui sont pas spécialisés en fait qui sont pas du domaine et donc je trouve ça très intéressant en fait que ce soit le public ou le jury donc j'aime bien avoir l'avis de gens qui sont pas de mon domaine.
Ben, vraiment merci Nader, on voit il y a de l'enthousiasme sur le visage de Nader, vous ne voyez pas forcément les auditeurs, donc vraiment un candidat motivé. Je vais du coup, donc la chronique va arriver à cette fin, on va dire sur ce premier temps de parole, vous avez vu il y a beaucoup de candidats, ça prend vite du temps, donc je vais redonner la parole à Barbara qui va enchaîner sur la suite de l'émission peut-être.
Non, juste peut-être deux petites questions, mais ou s'il y a des volontaires pour répondre, peut-être sur l'intérêt professionnel d'une telle participation, est-ce qu'il y en a qui le font pour le CV finalement et pour... l'impact que peut avoir un tel concours sur une carrière ou pas du tout ?
Des réponses ?
Moi, je pense, oui. Je pense que ce concours commence quand même à être connu. En tout cas, j'ai eu des échos de personnes qui ne font pas du tout de doctorat sur ce concours et qui m'ont d'ailleurs encouragée à y participer. Donc, je pense que ça peut être, un bon élément sur un CV, à savoir montrer en fait qu'on a un esprit de synthèse et qu'on est capable de pouvoir vulgariser avec des mots simples un sujet qui est très scientifique et qui peut paraître complexe pour les personnes qui ne sont pas du domaine. Donc moi, je pense que ça peut être un point fort pour pendant la thèse et après la thèse.
Et Sylvain, tu voulais réagir aussi ?
Oui, moi, j'ai un avis plutôt opposé sur la question. Je ne vois pas spécialement l'intérêt directement pour le CV, mais peut-être plus de façon indirecte pour pouvoir expliquer son sujet lors d'entretiens d'embauche ou dans ce type de contexte. Je pense que ça peut avoir son utilité dans ce cadre-là.
Et alors, peut-être une autre question qui va avec celle-là. Du coup, quel est l'avis, en tout cas de manière générale, ou s'il y en a un qui veut réagir, l'avis de vos directeurs de thèse sur cette question et sur cette participation au concours ? Est-ce qu'il y a un de vos directeurs de thèse qui n'était pas favorable à la participation au concours ?
Non, pour ma part, il m'a encouragé à participer. Donc, justement, pour avoir un certain recul sur mes travaux, parce que la plupart de nos présentations, c'est dans le labo, devant mon équipe. Donc là, c'est... plutôt une présentation assez originale devant des gens pas du domaine, donc oui, il est pour.
Ok.
Mon chef, il a dit que la thermodynamique, normalement, c'est une discipline très difficile pour les gens, et peut-être je ne vais pas réussir d'être capable d'expliquer qu'est-ce que je fais, mais bon, je pense que c'est un bon exercice, et c'est ça.
En tout cas, merci à tous pour ces petites questions supplémentaires, et ce que je vous propose, vu qu'on va redébattre un petit peu tout à l'heure, c'est tout de suite de passer à la chronique de Clément, qui va donc nous parler de l'ouvrage d'Edgar Morin.
Avez-vous lu ?
Bonsoir Clément, alors tu as 6 minutes pour nous présenter ton livre. Tu n'as même pas le temps de dire bonsoir, ce soir on te met en condition. Tu as deux fois le temps de ma thèse en 180 secondes, je te lance le chrono, je te laisse 6 minutes.
Merci Barbara, donc quand même bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de faire rapidement. Donc oui, l'objectif ce soir c'est de vous présenter un livre, Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin. Donc tout d'abord quelques mots sur l'auteur et le cadre général d'étude de cet ouvrage, à savoir qu'Edgar Morin est théoricien de la connaissance, philosophe et sociologue, et il est né à Paris le 8 juillet 1921. Il a poursuivi des études universitaires en histoire, en sociologie, en économie, en droit et en philosophie, rien que ça. Et il fut nommé directeur de recherche au CNRS en 1970. Ses recherches visent principalement à relever le défi de la complexité qui s'impose désormais non seulement à la connaissance scientifique, mais aussi aux problèmes humains, sociaux et politiques. Parmi les nombreux ouvrages, très nombreux même, écrits par Edgar Morin, nous pouvons citer par exemple son œuvre majeure, en 6 volumes, La méthode, Science et conscience, également, La complexité humaine, et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Introduction à la pensée complexe. Donc, le propos général de ce livre, commençons par dire que le mot complexité vient du latin complexus, qui signifie relier, tisser ensemble. En ce sens, la pensée complexe peut être considérée avant tout comme une pensée de la liaison, de la relation, de l'interdépendance entre les différentes composantes de notre connaissance du réel. Selon Edgar Morin, nous éprouvons de grandes difficultés à penser de manière globale, c'est-à-dire les relations, les interactions entre le tout et les parties. Ceci s'explique par une logique de cloisonnement disciplinaire, tant dans l'éducation que dans la recherche scientifique. L'auteur propose donc d'aborder le concept de science en remettant en cause le principe d'hyperspécialisation et d'hyperfragmentation des connaissances qui, in fine, nous fait perdre tout entendement d'ensemble, aussi bien du monde extérieur que de notre réalité intérieure. Ainsi, l'objectif d'une nouvelle science, la Scientia Nueva, que propose Edgar Morin, se base sur le paradigme de la complexité et vise à rendre compte du caractère multidimensionnel de toute réalité. Il s'agit dès lors d'une modification du concept de science capable d'appréhender à la fois l'unité et la diversité, mais aussi la continuité et la rupture dans les phénomènes observés dans la réalité. Donc, quels sont les trois concepts à la base de la pensée complexe? Tout d'abord, la théorie systémique, qui provient à la base de la biologie, avec les travaux de von Bertalanffy durant les années 1950. L'idée essentielle à retenir ici est que le tout, la société par exemple, ne correspond pas à l'addition de ses parties, les individus dans ce cas. En effet, au niveau du tout, se constituent des propriétés nouvelles que l'on ne retrouve pas dans chaque partie. On parle dans ce cas d'émergence, autrement dit, la survenue, quand il y a un tout organisé, de qualités qui n'existent pas dans les parties prises isolément. Le deuxième concept, en thermodynamique, est celui de système ouvert. Les systèmes ouverts sont des systèmes dont l'existence et la structure dépendent d'une alimentation extérieure. En ce sens, la compréhension du système se trouve à la fois dans le système lui-même, mais également dans sa relation à l'environnement. Dès lors, la réalité se trouve autant dans le lien que dans la distinction entre les systèmes et son environnement. Pour comprendre le fonctionnement d'un système donné, il ne faut donc pas considérer ce dernier comme une entité isolable. Dernier principe, celui d'auto-organisation. L'idée, ici, est que la compréhension du vivant n'est pas réductible à une logique purement mécanique, mais doit reposer sur une interprétation en termes de complexité. À partir du paradoxe de l'organisation vivante de Schrödinger, von Neumann établit une distinction entre 1. La machine artefact, constituée d'éléments extrêmement fiables pris isolément, pensons aux roues, aux vis, aux disques de frein par exemple dans le cas d'une voiture, mais dans le fonctionnement d'ensemble, celui d'une voiture est beaucoup moins fiable que chacun de ses composants individuels. Et à l'opposé, deuxième point, la machine vivante, dite auto-organisée, dont les composants, les cellules dans le corps humain par exemple, se dégradent très rapidement et sont donc très peu fiables, mais qui témoignent dans son ensemble d'une très grande fiabilité de fonctionnement, pensons au corps humain par exemple dans ce cas-là. Il y a donc dans ce cas une grande fiabilité de l'ensemble et une faible fiabilité de ses constituants. Merci Barbara de me rappeler le temps à chaque fois qui me reste. Nous voyons donc qu'en ce qui concerne les organisations vivantes, le fait que celles-ci soient auto-organisées signifie d'une part qu'elles disposent d'une autonomie, d'une individualité propre, et d'autre part qu'elles sont liées à de très riches relations à l'environnement. Et donc à partir du concept d'auto-organisation, nous constatons qu'il existe une relation fondamentale entre l'ordre et le désordre. Ces deux dimensions sont inséparables au sein de toute organisation vivante. D'un côté, nous avons la présence d'un phénomène de désorganisation, qu'on appelle l'entropie, et de l'autre, la présence d'un phénomène d'organisation, que l'on qualifie de négentropie. Il y a donc un lien indissoluble entre la vie et la mort dans la dynamique de fonctionnement même de tout système vivant. Comme le disait déjà Héraclite, « vivre de mort, mourir de vie ». Et donc, dans ce cas, des phénomènes désordonnés sont dans ce cas nécessaires à la production de phénomènes organisés, lesquels contribuent à l'accroissement de l'ordre. Et pour terminer, je résumerai ce propos par les trois principes que propose Edgar Morin à partir de cette analyse pour penser le réel en termes complexes. Tout d'abord, le premier, le principe dialogique. Comme nous l'avons vu, les notions d'ordre et de désordre semblent a priori antagonistes. Toutefois, dans certains cas, l'interaction entre ces deux phénomènes conduit à produire de l'organisation et de la complexité. Dès lors, le principe dialogique permet d'associer deux termes à la fois complémentaires et antagonistes. Ils assurent le maintien de la dualité au sein de l'unité. Deuxième principe, c'est celui de la récursion organisationnelle. Dans un processus récursif, les produits sont en même temps cause et producteur de ce qui les produit. Par exemple, la société est produite par les interactions entre individus, mais une fois produite, la société réagit à son tour sur les individus. Ce qui conduit nécessairement à la remise en cause du concept de causalité linéaire. Dernier principe, et je finirai sur cela, le principe hologrammatique. En référence à la citation de Pascal, qui est « Je ne peux pas concevoir le tout sans concevoir les parties, et je ne peux pas concevoir les parties sans concevoir le tout », le principe hologrammatique repose sur l'idée que la partie, en l'occurrence l'individu, est dans le tout, la société dans ce cas, mais que le tout est également présent dans chaque partie. En ce sens, le tout est à la fois plus et moins que la somme de ses parties, ce qui permet de dépasser l'approche du réel en termes de réductionnisme, mais également d'holisme. Donc simplement pour résumer, la pensée d'Edgar Morin vise à rendre compte du caractère profondément multidimensionnel du réel à partir des concepts de système ouvert, d'auto-organisation. L'auteur dégage les trois principes que je vous ai mentionnés à l'instant et qui servent de base à une pensée permettant de lier les connaissances entre elles et d'échapper ainsi au mode réducteur de la pensée scientifique actuelle. En ce sens, d'après Edgar Morin, notre manière d'appréhender la connaissance scientifique témoigne du fait que nous sommes encore dans la préhistoire de l'esprit humain.
Merci Clément pour cette superbe chronique. Je suis un grand disciple d'Edgar Morin, j'ai beaucoup apprécié. Et j'en profite pour dire aux auditeurs que Edgar Morin est président d'un séminaire qui s'appelle séminaire ISCC de médiation scientifique et ce qu'on pourrait appeler la vulgarisation scientifique ici. Et demain, notre directeur de séminaire que j'anime ici en Auvergne, séminaire ISCC, viendra faire une conférence à Clermont-Ferrand, c'est Pascal Griset. Donc je vous invite à venir demain après-midi à la Maison des Sciences de l'Homme pour l'écouter.
On viendra nombreux là. Merci.
C'était le titre 1979 des Smashing Pumpkins. Des quoi ? Des Smashing Pumpkins. Alors du coup, Clément est vexé, il a respecté ses 6 minutes, mais il me le fait payer maintenant sur ma prononciation anglaise. Il est 18h34, vous êtes toujours en train d'écouter Quoi de Neuf Doc, et il est temps de retrouver nos invités pour discuter de leur préparation au concours Ma Thèse en 180 secondes. 3, 2, 1, go !
Eh bien, rebonjour à tous. Nous allons rediscuter avec nos candidats à ma thèse en 180 secondes. Le but maintenant va être de nous parler un petit peu de la façon dont vous appréhendez cette finale et dont vous vous préparez pour cette finale, le temps de préparation que ça vous prend. Et on ne manquera pas de donner la parole à, à Noémie peut-être pour quelques conseils à la fin de cette chronique. Noémie, grande gagnante en 2014. Donc je vais rapidement redonner la parole donc à nos candidats. Alors ben de nouveau Ibtissem, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois cette préparation et notamment la relation que vous avez aux anciens candidats et aux anciennes vidéos disponibles sur Internet?
Alors, formation, coaching de Arthur. Et merci encore. En effet, pour moi, c'est Arthur qui m'a motivée à vraiment m'activer dans cette démarche que j'ai moi-même faite. Hein, mais voilà, donc un coaching qu'on a déjà eu dans le cadre du Collège des écoles doctorales. Et puis une préparation personnelle, donc entre midi et deux, le soir, j'ai fait un petit brouillon entre deux théories au laboratoire et voilà, et après j'en ai parlé autour de moi, à ma famille, qui du coup m'a demandé d'éclairer pas mal de mots et donc j'ai comme ça petit à petit réussi à vulgariser, je pense, mon speech. Voilà.
Et les autres, est-ce que vous êtes organisés de la même manière, du coup, Ibtissem? Est-ce que vous avez procédé de manière différente ou est-ce que vous avez repris les mêmes techniques?
Allez-y, Sylvain.
En ce qui me concerne, ben, je prends des heures que j'ai comme ça, par-ci, par-là, dans la semaine pour avancer un petit peu sur le speech que je souhaite présenter, réfléchir un petit peu à la façon de le mettre en scène, et puis j'en discute avec des collègues, etc. Et Arthur nous a aussi beaucoup aidés dans la préparation de ce concours.
On a aussi reçu l'aide de deux professionnels de la communication qui sont Pierre Bonton et Cécile Nord qui participent. Hein, c'est pas moi qui fais toute la préparation. Ouais. Nader, peut-être?
Oui, j'essaie de penser en fait aux deux gagnantes. Donc comment ils ont gagné? Donc Noémie, c'était plus dans la simplicité, en fait. Elle a fait des petits dessins, je me rappelle, pour le bronzage, je crois. Et l'année dernière, c'était plus dans l'humour, en fait. Donc peut-être faire un mélange des deux, donc parler simplement, mais en misant sur l'humour, pour convaincre le jury et le public.
Donc toi, tu as vraiment regardé les vidéos des années précédentes pour essayer...
J'y étais personnellement.
Voilà, et puis même pour voir un peu ce qui peut fonctionner.
C'est ça.
Effectivement.
Donc,
D'ailleurs, j'en profite quand même pour faire un petit bisou à Camille, qui aurait bien aimé être Camille, là, mais voilà, qui est en Amérique du Sud, mais on lui fait un petit bisou de loin quand même.
Donc, quel rapport vous pouvez avoir aux vidéos? Est-ce que vous avez tous regardé les vidéos déjà, ou est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas voir ce que les précédents ont fait?
J'ai juste regardé la vidéo de Noémie, mais aussi j'aime bien voir les TEDx talks, donc je suis vraiment ces types de talks. Voilà.
Lucie, moi, j'ai regardé pas mal de vidéos des finalistes de l'année dernière et des années d'avant, parce que je voulais voir un peu ce qui était présenté, et aussi, donc je les avais regardées avant de postuler pour ma thèse en 180 secondes, mais c'est une bonne formation aussi.
Et peut-être s'il y en a qui ont déjà regardé les vidéos des premiers finalistes régionaux qui ont déjà gagné dans leur région.
Cette année, en 2016, oui.
Oui, oui, je suis tombée sur la gagnante d'une... Enfin, la gagnante, elle a eu un prix du jury, je ne sais plus dans quelle région par contre. Mais voilà, j'ai vu passer sur Twitter, j'ai regardé, c'était vachement bien.
Ça met la pression un petit peu de regarder les autres ou pas du tout?
Oh oui, en tout cas, moi personnellement, j'ai regardé que celle de Noémie, et d'ailleurs, elle m'a séduite, cette vidéo, mais sinon les autres, ça me stresserait trop, donc non, voilà.
D'accord, peut-être du coup, est-ce que Noémie veut nous dire un petit mot sur cette préparation, sur comment elle avait vécu le concours, et si elle avait un petit conseil à donner à nos candidats pour cette année?
Oui, bon, moi c'est pareil, à l'époque j'avais pas pu regarder les vidéos des candidats parce que ça me mettait une pression monstre, je me sentais pas du tout à la hauteur, d'autant plus que pour moi au départ ce concours c'était vraiment un défi personnel et du coup voilà, je voulais prendre du plaisir à le faire et je voulais pas que ça devienne un exercice trop stressant non plus, donc voilà, je me suis dit je vais pas me mettre dans un esprit de compétition du tout, moi je le faisais juste pour l'exercice et après voilà, donc j'ai été formée aussi par Pierre Bonton et Cécile Nord, donc qui m'ont apporté énormément de bons conseils. Et voilà, je me suis beaucoup entraînée, surtout devant des gens qui n'y connaissaient rien, parce que c'est ça aussi, le but, c'est de faire passer un message face à des gens qui sont profanes du sujet. Et voilà, et ça a bien fonctionné comme ça, donc j'espère que ça marchera pour vous aussi.
Merci Noémie.
Ben, merci Noémie, puis ce que je te propose, c'est que tant que tu as un micro, même si je te l'ai volé, je te le redonne, c'est qu'on passe à ta chronique patience.
Patience.
Bien, donc bonsoir à tous, chers auditeurs. Comme Barbara vous l'a énoncé en début d'émission, donc moi je suis doctorante en neurosciences, et quand j'ai commencé ma thèse il y a 3 ans et que mes proches me demandaient quel était mon sujet de recherche, spontanément je répondais « Eh bien tu vois, je travaille sur l'implication des récepteurs 5-HT2A dans la modulation des interneurones PKC gamma dans un contexte d'allodynie. » Alors évidemment, comme les auditeurs et comme les gens sur le plateau ce soir, je perdais un peu leur attention. Ils se sentaient bêtes de ne pas comprendre et moi attristée de ne pas me faire comprendre. Du coup, étant une grande lectrice de revues scientifiques tout public, je me suis dit « Et si j'apprenais à communiquer en termes simples ? Et si je vulgarisais ma science ?» Donc c'est ce que j'ai fait pour la première fois au travers du concours Ma thèse en 180 secondes en 2014. Et grâce à cette première expérience et celles qui ont suivi, j'ai pu observer les bénéfices mais aussi les limites de la vulgarisation. Donc Nicolas s'est bien chargé d'honorer les limites de la vulgarisation sur temps court dans son billet d'humeur et je partage son point de vue. Mais je vais tempérer un peu en vous donnant selon moi les bénéfices de la vulgarisation, que ce soit sur un temps court comme dans le concours Ma thèse en 180 secondes, mais aussi sur un temps long comme dans le cadre de conférences grand public par exemple. Alors d'abord, il me semble essentiel de poser la première pierre en définissant ce qu'est la vulgarisation scientifique. Le terme « vulgarisation » nous vient du latin « vulgate » qui signifie « le peuple ». Et contrairement à la communication dite « primaire », lorsque le communicant ne s'adresse qu'à ses pairs, la vulgarisation est une forme de diffusion pédagogique des connaissances, toutes disciplines confondues, et qui cherche à mettre le savoir avec ses limites et ses incertitudes à la portée d'un public non expert. Elle donne accès au savoir, certes, mais également au savoir-faire et au savoir-être de ces disciplines, par exemple dans les comportements que nous devons adopter pour le bon fonctionnement de notre société. Dès lors, on peut se questionner sur le réel intérêt de la vulgarisation. A-t-elle un rôle dans... A-t-elle une fonction sociale? Est-elle essentielle ou futile au fonctionnement de notre société? Les chercheurs eux-mêmes peuvent-ils tirer un bénéfice à vulgariser leurs recherches? Ces questions sont rarement posées dans la mesure où ce sont les enjeux pédagogiques qui mobilisent principalement l'attention des chercheurs par le biais de cours dispensés à l'université. Pourtant, si on admet que la vulgarisation scientifique témoigne d'une exigence d'enseigner au public, on pourrait dès lors y voir une cause non pas accessoire, mais essentielle de la science moderne. Maintenant, sachez que la vulgarisation scientifique est loin justement d'être contemporaine, car si on revient brièvement sur les origines de la vulgarisation, dès l'Antiquité, les observations et découvertes étaient retranscrites dans ce que l'on considère comme étant les premières encyclopédies et qui étaient destinées aux savants, le bas peuple étant majoritairement illettré à cette époque. Ensuite, des proto-encyclopédies ont fait un bond de plusieurs siècles pour atterrir au XVIIe siècle à la rencontre de Bernard Le Bouvier de Fontenelle, qui fut le créateur d'un nouveau genre littéraire qui était orienté vers un public de salon, essentiellement mondain. Son œuvre la plus connue, Entretien avec la pluralité des mondes, étant composé de leçons de vulgarisation des connaissances de Descartes et Copernic. Après le XVIIIe siècle, les expositions universelles, comme celle de Paris en 1889 avec la Tour Eiffel comme symbole du génie français, donc ces expositions universelles mettent en avant le progrès et les avancées fulgurantes des techniques. Les machines sont toujours plus impressionnantes et promettent prouesses techniques et amélioration du quotidien. La science doit aller vers le grand public pour le convaincre de son utilité. Alors même si le contenu scientifique de ces expositions est assez maigre, au-delà des intérêts économiques et industriels, les expositions rassemblent des milliers de personnes, spécialistes ou non, industriels et ouvriers. La notion de culture de masse émerge. La dernière étape de l'histoire de la vulgarisation scientifique est celle que nous vivons aujourd'hui, celle d'une médiatisation de masse. Dans le monde du XXIe siècle, la science est partout, dans nos vêtements, dans nos assiettes, devant l'urgence de lutter contre les changements climatiques, dans nos opinions politiques, dans notre économie et même jusque dans nos nouvelles manières de donner la vie. C'est une science qui interroge toujours plus, qui inquiète aussi parfois et qui provoque nombre de désaccords. Mais c'est aussi et surtout une science qui intéresse. Et quiconque s'intéresse à la science se doit d'y accéder et de la comprendre. C'est ainsi que la vulgarisation a envahi les masses médias ces dernières décennies. Mais finalement, vulgariser la science, ça sert à quoi ? Pour la plupart des répondants, savants ou profanes confondus, la vulgarisation sert avant tout à comprendre le monde qui nous entoure. Elle permet de partager les connaissances, d'enrichir la réflexion, d'éclairer nos esprits. Elle permet de démocratiser le savoir pour éviter également le corporatisme, où seuls les savants sont détenteurs du savoir. En offrant l'accès pour tous à la connaissance, la vulgarisation permet de susciter des vocations, en particulier auprès des nouvelles générations qui ont tendance à déserter les filières, scientifiques notamment. Et quelque chose d'important qui ressort également, c'est le fait de rendre des comptes à la société. Car il faut garder à l'esprit que la plupart des recherches et des chercheurs du domaine public sont aujourd'hui financés par l'argent du contribuable. Moi-même, ma bourse de thèse m'a été attribuée en partie par la région Auvergne. Du coup, il semble évident qu'en vulgarisant notre science, nous justifions en quelque sorte de l'utilisation de cet argent. C'est un devoir moral vis-à-vis du citoyen financeur. La vulgarisation permet aussi de faire progresser la recherche, en quelque sorte, puisqu'elle offre aux scientifiques d'élargir leur regard sur leur propre recherche. Elle permet de faire naître de nouvelles idées, car par exemple, lors de conférences, les auditeurs posent des questions que nous ne nous étions pas forcément posées nous-mêmes. Et ça, c'est enrichissant. Et ça, ça fait naître de nouvelles idées. Et ça, c'est toujours bon à apprendre. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça en écoutant Yaus de Dauteur.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong.
Vous êtes toujours au 93.3 pour l'émission Quoi de Neuf Doc, une brève intermède, le temps de tous revenir sur le plateau, de répartir les micros, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très très nombreux. Alors, l'émission touche à sa fin, il a fallu attendre 18h42 pour avoir une première définition de la vulgarisation scientifique. C'est là qu'on se rend compte qu'on a tous nos travers lorsqu'on fait de la vulgarisation et de la recherche. Et dans tous les cas, vous avez déjà entendu beaucoup d'arguments relatifs à la vulgarisation scientifique, des arguments pour comme des arguments contre. Je vous propose donc de passer à un débat en compagnie de nos invités et de nos chroniqueurs, juste après le jingle. 3, 2, 1, go ! Alors, vu qu'on est 10 sur le studio, ce qu'on va faire, c'est peut-être, je vais essayer de lancer déjà un premier thème de débat. N'hésitez pas à me dire que vous voulez intervenir. Ce sera plus simple que de faire quelque chose d'inaudible pour les auditeurs. Et moi, ma première question, c'est d'après vous, est-ce que MT180, c'est un bon exercice de vulgarisation ou non ? Du coup, personne n'ose intervenir maintenant que j'ai dit qu'il fallait demander la parole.
Alors, moi, je vais commencer parce que je pense qu'on a passé pas mal de temps à dire de très bonnes choses de la vulgarisation scientifique. Je crois qu'effectivement, si on se contente de dire que l'exercice MT180 est un exercice de vulgarisation scientifique, effectivement, pourquoi pas, ça reste encore à prouver, mais je veux bien concéder que le terme vulgarisation scientifique puisse être entendu et donné à ce genre d'exercice. Or, je crois pas, moi, par contre, et ça c'est peut-être une chose différente, que le scientifique est là pour vulgariser, et encore moins pour vulgariser sous un format aussi court et un format chaud, pour faire le clown sur une scène, gros, si je devais caricaturer, histoire d'aller bien au fond de l'idée et bousculer les présupposés. Donc je crois, moi, qu'il faut faire attention à ça et que l'idée de vulgarisation scientifique, elle doit être prise avec des pincettes, parce que vulgarisation et science ne sont pas toujours bon amis, à mon avis.
Peut-être, moi, pour distinguer, il y a un peu deux choses dans ce débat dont qu'a abordé un petit peu Noémie. C'est le fait, est-ce qu'on doit vulgariser, l'intérêt de la vulgarisation. Elle a parlé de rendre des comptes aux contribuables, etc. Et puis après, si on doit vulgariser, sous quelle forme, et voilà, vraiment travailler, est-ce que la forme d'MT180 est bonne pour ça? Et par rapport à un colloque où on a tous participé, quel est l'intérêt de l'un de l'autre? Quelles sont ses faiblesses? C'est un petit peu peut-être de discuter là-dessus. Et notamment sur le rôle peut-être du public qui vient assister, etc. Bon, c'est pour lancer des pistes de réflexion.
Oui, MT 180, c'est quand même le seul concours où se mélangent des candidats issus de 5 écoles doctorales de Clermont. Donc on a des domaines très variés d'informatique, biologie, géologie, tout. Donc le public, il assiste donc à tous les domaines donc, des écoles doctorales. Donc je trouve que c'est important quand même de vulgariser tous ces domaines pour que le public assiste et comprenne ce qu'il... Ce qu'il écoute.
Alors oui, bah d'ailleurs, la première impression que j'avais eue, c'était que j'étais la seule en management. Donc oui, ça, je trouve ça très très positif, le fait qu'on puisse tous se rencontrer, nous qui venons d'univers scientifiques différents. Et puis aussi, j'ai envie de dire que moi, je l'adapte mon discours quand je fais des présentations, que ce soit au sein de conférences, bien que j'en ai pas encore eu, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais ou au sein de séminaires. Parce que un séminaire transversal où il y a des doctorants ou des chercheurs qui viennent d'autres filières des sciences de gestion, certes, mais il faut quand même adapter. Par ailleurs, je suis aussi financée par la région et c'est vrai que dans ma thèse, je vais devoir faire un rapport écrit pour des professionnels ou pour les institutions. Et donc là, il va falloir aussi adapter le travail. Donc je pense que, pour moi, ça reste un exercice de style, mais qui est positif pour le plus tard, quoi.
Moi, par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, l'aspect spectacle ne me dérange pas forcément trop dans le format du concours ma thèse en 180 secondes. Ce que je trouve le plus dommage, quelque part, c'est de n'avoir aucun retour, aucune question du public. On n'imagine aucun format pédagogique où on pourrait vérifier si les gens ont compris, s'ils peuvent pas poser de questions, ce type de choses, c'est quelque part, on n'a pas du tout de retour, et je pense que c'est le plus dommage dans le format de ce concours.
Oui, simplement pour ajouter une chose, moi je suis vraiment pour, dans le sens où je pense que l'exercice de concision est vraiment une modalité en fait de la compréhension et une condition nécessaire, bien que non suffisante, ça je suis entièrement d'accord, de la diffusion d'une connaissance auprès du grand public. Je pense que cet exercice de concision contribue vraiment à l'aspect de diffusion, également de compréhension, justement, d'un débat scientifique dense sur des problématiques complexes. Voilà.
Alors, pour revenir à ce qui a été dit juste avant, je crois... Par toi, Nicolas, par rapport au fait que les chercheurs ne sont pas forcément les mieux placés pour faire la vulgarisation scientifique, j'ai été amenée à être en contact avec les médias depuis 2 ans. Et toutes mes recherches étaient passées au public par l'intermédiaire de ces médias-là. Et ce que je lisais dans les articles, ça ne correspondait pas forcément à ce que je leur avais dit. Donc le problème, en fait... quand on a un intermédiaire, quelqu'un qui va vulgariser pour soi, c'est que ça va être interprété et ça va pas forcément être rendu de la manière dont on aurait voulu. Donc je pense que c'est important que les scientifiques, et pas que les scientifiques, les chercheurs de toutes les disciplines apprennent à parler de leur travail de manière simple et à le faire comprendre aux gens pour pas qu'il y ait de quiproquo et que la recherche qu'ils font soit pas bien perçue, pas perçue comme ce qu'ils voudraient par le public. Donc pour ça, je pense que la vulgarisation scientifique, c'est important.
Alors, c'est bien, je suis content que tout le monde réagisse et a un avis. Ça, c'est déjà très bien. Après, je pense qu'il y a deux choses importantes. Un commentaire et une question que je voudrais vous poser. C'est, la première, c'est j'ai du mal à considérer, moi, qu'en face, on ait un public qui soit si novice que ça et qu'on doit considérer que nous sommes les penseurs et les chercheurs, que nous avons la connaissance et que nous devons faire un effort pour se mettre à hauteur du petit peuple. Hein, c'est ce que disait Noémie tout à l'heure. Il faut faire attention à ça, je crois. Et la deuxième chose, c'est Si on prend les choses du côté scientifique, je vous interpelle sur le rôle politique que l'on a à jouer. C'est quoi le rôle politique ? C'est qu'aujourd'hui, il y a un amendement qui va passer au mois de septembre là, à l'Assemblée nationale qui dira que les thèses ne pourront pas se faire maintenant en plus de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui va légiférer pour obliger les gens comme nous à faire le boulot qu'on fait. Vous savez à quel point c'est dur, de toute façon en 3 ans. Or, ces gens-là s'appuient sur quoi ? Sur le concours, ma thèse en 180 secondes, pour dire, vous savez, on a des doctorants géniaux qui font de la vulgarisation scientifique en 3 minutes, donc ils peuvent faire leur thèse en 3 ans. Tout va bien. Alors quand tout le monde va faire ce concours en disant c'est génial, c'est super, c'est bien, on cautionne un acte politique qu'on va reprendre en pleine tête dans pas longtemps, nous et les jeunes, comme toi en première année par exemple, qui devra peut-être subir tout ça, et tu auras participé. Alors qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur le rôle politique que vous jouez à ce moment-là ?
Si je peux juste me permettre, avant de rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, je pense qu'il y a quelque chose à corriger, dans le sens où, quand tu mentionnes l'idée que la communication scientifique, l'idée de vulgariser, serait dans l'hypothèse d'une relation hiérarchique et que nous aurions la connaissance et qu'on serait obligé de dégrader le savoir pour se mettre au niveau. Non, je pense pas du tout. C'est que, simplement, comme l'a très bien dit Noémie, il y a une question simplement de langage. Quels que soient les corps de métier, quelles que soient les disciplines, on parle des langages différents. Le but et l'objectif, c'est simplement, je pense, dans cette perspective-là, de filtrer en fait le paramètre technique du langage qui est associé justement à tous nos registres disciplinaires pour tout simplement exprimer, mais de la même manière que on se la représente nous mentalement, quelque chose avec, dans un prisme simplement non technique et accessible. Donc je ne pense pas qu'il y a dégradation, il y a simplement filtrage en fait sémantique. Voilà.
Moi, peut-être, pour revenir sur l'histoire de la thèse en 3 ans, il y a aussi d'autres problèmes derrière cette décision-là. C'est le fait que les contrats de thèse, jusqu'à présent, sont de 3 ans. Et donc, il y a la particularité. Comment on fait pour continuer une thèse au niveau juridique, au niveau des contrats, au niveau des contrats plus ou moins précaires que peuvent avoir les doctorants pour finir leur thèse? Et donc, tant que les contrats de thèse sont 3 ans, pourquoi ne pas obliger à finir au bout de son contrat? Alors, je suis d'accord que les doctorants vont peut-être travailler dans le milieu de l'entreprise. C'est vrai, vous avez un contrat, on finit dans les temps. Peut-être le monde de la recherche n'est pas celui-là, mais il faudrait harmoniser en tout cas tout ce qui est contractuel avec ces données-là, je pense.
Alors, je suis désolée de devoir conclure le débat déjà maintenant. Je trouve ça super, par contre, parce qu'il y a eu des pistes de réflexion. Et je trouve que le but de la vulgarisation scientifique, et en tout cas le but de cette émission de radio, c'est plutôt d'ouvrir des questions et de poser les questions et pas forcément d'apporter les réponses, puisqu'on a tous le droit d'avoir un avis différent. J'insiste, si vous voulez en savoir plus sur le concours Ma thèse en 180 secondes, venez les voir, les 5 qui sont là, mais aussi les 7 autres. Je vous rappelle, c'est le 27 avril 2016 à 17h30 à l'école universitaire de management, située 11 avenue Charles de Gaulle, d'autant que vous avez le droit de voter pour le candidat que vous avez préféré, et donc montrer justement si vous avez compris le concours. Si vous voulez voir un autre type d'exercice de vulgarisation scientifique, je vous invite également à aller voir le prix des jeunes chercheurs, où là, c'est une vulgarisation en 20 minutes avec des questions du jury qui a lieu demain. Donc, il y a les 12 candidats qui seront représentés à l'espace multimédia, salle Georges Conchon, 3 rue Léo-Lagrange à Clermont-Ferrand, et les soutenances commencent à 9h. Elles durent jusqu'à 17h, et la remise des prix sera à l'hôtel de ville à 19h. Je vous remercie à tous d'être venus pour cette émission, d'avoir donné vos opinions, d'avoir débattu avec nous. Je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés et j'espère qu'on vous a apporté des réponses et pas que des questions. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous suivre, on revient tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 18h à 19h sur Radio Campus au 93.3. Que si malheureusement vous ne pouvez pas nous écouter à cette heure-là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de l'association www.doctoverne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. Et puis si vous voulez ça de manière peut-être un petit peu plus ludique et encore plus vulgarisée, vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'association. En attendant, je vous donne rendez-vous au Delirium pour ceux qui souhaitent venir boire un verre pour l'apéro. Et puis sinon, je vous dis à très vite et je vous souhaite à tous une belle soirée.
Et n'oubliez pas de rester debout demain.
Bonsoir.
Vous venez d'écouter Quad Neuf Doc, l'émission de Doc Tauvergne. Retrouvez-nous le 1er et 3e mercredi du mois, 18h-19h, sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 et sur le net clermont-campus.net.